Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? C'est le 1er décembre, c'est le calendrier de l'Avent, pas de l'après.
Oh, ça va.
C'est tout l'après.
Bien rattrapé. Les garçons sont endormis, voilà. Ça dort de ce côté-là. Adrien Spiteri, on en parle dans un instant.
Mylène de Mongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée, souvent comparée à Brigitte Bardot. Elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de ses rôles dans Bonjour Tristesse, Fantomas ou encore dans Camping. La Chine souhaite alléger sa politique zéro Covid. La vice-première ministre l'a annoncé dans une déclaration. Une décision qui intervient après la vague de contestation dans le pays. Des milliers de Chinois ont manifesté le week-end dernier à Pékin, Shanghai, Canton ou encore à Wuhan. Et puis la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde. Vous voyez sur ces images la déception des Belges. Ils ont fait match nul 0-0 contre la Croatie qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Dans le même temps, le Maroc s'est imposé face au Canada de 2-1. Les Lions de l'Atlas se qualifient pour le prochain tour, une première depuis 1986.
Au sommaire ce soir, notre courage nous lie. Notre alliance est essentielle pour notre défense mutuelle. La France et les États-Unis sont encore une fois en train de défendre les valeurs démocratiques. Très bel échange entre les deux présidents, Joe Biden et Emmanuel Macron, aujourd'hui aux États-Unis. Mais au-delà des formules, est-ce que cela correspond à la réalité? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Il va y avoir a priori des coupures d'électricité cet hiver. Les secours seront difficilement joignables, le trafic ferroviaire perturbé, les écoles pourront être fermées. Personnes âgées, enfants, handicapés, tous s'inquiètent. Le gouvernement avait-il bien annoncé qu'il n'y aurait aucun risque de coupure? Oui, 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 répond et analyse Geoffroy Lejeune. Alors que les Français souhaitent voir les textes de loi existants déjà appliqués, Gérald Darmanin réfléchit dans son projet de loi immigration à assumer le rétablissement de la double peine, c'est-à-dire l'expulsion des étrangers condamnés. Gérald Darmanin n'a-t-il pas lui-même demandé au préfet d'expulser les délinquants étrangers? Et si les premières peines ne sont pas exécutées, comment appliquer la double peine? Des tergiversations qui n'échappent pas au décryptage de Charlotte Dornelas. Alors que le 1er décembre 1789, le docteur et député Joseph Guillotin suggère à l'Assemblée constituante de traiter les délinquants de façon digne et humanitaire, Marc Menon s'intéressera à Charles-Henri Sanson, le bourreau issu d'une famille de bourreaux de génération en génération. C'est lui que Joseph Guillotin va approcher pour créer l'objet d'une exécution acceptable et oui, digne des droits de l'homme. Et la même pour chaque citoyen, Marc Menon raconte. Après la Pologne, c'est au tour de la Hongrie. L'Union européenne suggère de geler les fonds européens destinés à Budapest. Plus de 13 milliards d'euros en cause. Le pays n'a pas assez mené assez loin les réformes en matière d'amélioration de l'état de droit, notamment. En quoi est-ce une manifestation de l'esprit démocratique de l'Union européenne? Le chantage est-il au cœur même de notre démocratie? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Alors, c'est le calendrier de l'Avent qui commence aujourd'hui, 1er décembre. On a décidé, nous, de fêter l'Avent et l'après.
Non,
mais alors attendez, mais on fait vite parce qu'on a un sujet, on a un programme chargé.
D'accord.
Donc ça, c'est voilà, le 1. J'ai une petite devinette, une petite phrase, devinez l'auteur. Ne me regardez pas comme ça, Charlotte, si vous savez pas, je vais vous aider. Geoffroy Lejeune, il se dit, mais je suis arrivée dans quelle émission là? Alors, le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir. Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert.
Aucune idée.
On peut l'avoir.
De Robert dans Astérix et Obélix.
Non, c'est un écrivain français. Son nom commence par V.
Paul Valéry ? Oh.
Non.
Bon, j'en sais rien alors.
Ça peut être un philosophe ?
Ça peut être un philosophe, allez.
Je sais pas, V, philosophe, Voltaire. Bravo! Oui,
bravo! Elle a bravo, Charlotte!
Copieuse! Le sprint!
Bravo! On va remettre la phrase, hein, on va afficher la phrase. Alors, vous avez une super.
Magnifique!
Magnifique bougie, ma belle.
Non, voilà. C'est le sprint.
Magnifique bougie. Marc, faut passer.
Voilà. D'accord.
Une phrase à méditer. Et puis, je sais pas, je me suis dit que je vais aussi vous offrir les trois tomes de Laurent Robert. Le truc est complètement. Mais celui qui a écrit La France Orange Mécanique. Tome 1, tome 2, tome 3, comme c'est le jour 1 du mois de décembre. Cadeau pour ma chère Charlotte. Voilà.
Dis donc.
Très fort.
Vive les filles.
C'est sympa, merci.
Alors, donc tous les jours, on aura une petite phrase comme ça à deviner jusqu'au 24 décembre et vous aurez un petit cadeau ou pas. Ma fille m'a demandé, mais quand c'est le week-end et que vous n'êtes pas à l'antenne, qui aura les cadeaux? J'ai dit, ben toi. Alors, les chéris, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de cette octogénaire qui avait été agressée à Cannes par trois garçons adolescents. On va en parler, on va débattre autour de la table puisqu'ils n'ont pas a priori de remords. Est-ce qu'on peut ne pas en avoir? Comment agresser une femme de cet âge dans le dos et ne pas avoir de remords? Est-ce que les rétentions aujourd'hui peuvent servir à quelque chose? On en parlera dans un instant. Tout d'abord, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis qui ramène au cœur de l'actualité la question des rapports entre ce pays et la France. Les Américains présentent traditionnellement la France comme son plus vieil allié, on l'a entendu cet après-midi sur CNews. Et la France aime rappeler son rôle dans l'histoire de l'indépendance américaine. Mais au-delà des formules, Mathieu, est-ce que cela correspond toujours à la réalité? Qu'en est-il de la relation entre les deux pays aujourd'hui concrètement?
Alors je crois qu'il faut revenir justement à quelques considérations générales sur l'histoire de cette relation pour voir comment elle se pose aujourd'hui. On parle justement le plus vieil allié, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule souvent utilisée? N'oublions pas qu'au départ, la France, 1763, c'est une histoire qui est la mienne et la vôtre, en 1763, la France est chassée d'Amérique pour l'essentiel, avec Paris, tout ça, la France est chassée d'Amérique, il ne lui reste presque plus rien. C'est ce qu'on a appelé la bataille des plaines d'Abraham et ce qui suivra en 59. Donc c'est la fin des guerres qui font en sorte que la France avait cherché à s'implanter en Amérique. Elle n'y parvient pas. Vengeance, à peu près 15 ans plus tard, la France se met au service de l'indépendance américaine et réussit à vaincre celle qui l'avait vaincue hier, l'Angleterre. Donc point de départ, c'est-à-dire la France qui, après avoir été chassée, a fait sa vengeance et a permis aux Américains d'accéder à leur indépendance. Point de départ. Ensuite, la France et les États-Unis, dans la modernité, voilà deux nations révolutionnaires, la Révolution française et la Révolution américaine. Deux nations qui prétendent avoir inventé les droits de l'homme. Faut pas l'oublier. La France dit « on est le pays des droits de l'homme », les Américains disent « on a pensé le modèle universel valable pour l'humanité dans son ensemble ». Deux nations qui ont déjà mené des guerres révolutionnaires en prétendant libérer les autres peuples pour leur permettre d'accéder à leur propre modèle. Des guerres napoléoniennes aux guerres néoconservatrices. Je sais que Éric Zemmour m'en voudrait d'utiliser cette formule, mais il y a un lien dans cette prétention révolutionnaire à libérer les gens, quelquefois, malgré eux. Un rapport complexe aussi entre les deux nations. Fascination américaine pour la France. Hein? Fascination américaine pour la France, pays qui est vu comme à la fois sophistiqué, raffiné, mais en même temps léger, décadent et mondain. Donc une forme de fascination qu'on voit même dans la culture populaire. Regardez, de temps en temps, il y a des films sur le mode, il y a une série récemment, Emily in Paris, ça s'appelle. Et là, c'est le Paris carte postale dans lequel une Américaine de Chicago est projetée. Et là, on est dans ce Paris carte postale. Donc tous les Français ont une maîtresse, toutes les Françaises ont un amant, les Français travaillent très très peu et ils se plaignent tout le temps. Donc imaginez l'espèce de caricature. Mais il y a une fascination, un désir qui se joue à travers ça. Fascination française pour les États-Unis, sur deux plans. D'un côté, on présente les Américains comme c'est le pays de l'ascension sociale, de l'énergie absolue, de la modernité, un désir de modernité associé aux Américains. On prend toujours les Américains pour le modèle. De l'autre côté, on les prend quand même pour une nation de simplets, pas très évoluée, un peu étrange, avec une gamme émotionnelle limitée, et par ailleurs, une nation avec des tentations puritaines récurrentes, hein, de la prohibition dans les années 20, au rapport un peu trouble à la religion aux États-Unis, aujourd'hui l'obsession woke, donc un rapport trouble d'un pays à l'autre dans le rapport à la culture. Le 20e siècle, les Américains, c'est quoi le 20e siècle américain par rapport non seulement à la France, mais à l'Europe? Ils disent on a libéré la France et l'Europe deux fois et on l'a protégée une troisième fois contre le communisme. Donc il y a cette idée d'un empire qui se serait affranchi de son berceau et qui aujourd'hui serait le nouveau pôle de l'Occident. Hein. Au XXe siècle, la capitale de l'Occident passe de l'Europe à l'Amérique. De l'autre côté, les Français au XXe siècle et les Européens plus largement constatent ce déclin relatif, une perte de puissance. C'est le siècle de la perte de la puissance. Pour certains, le général de Gaulle, par exemple, il y a cette idée que la France ne peut néanmoins demeurer elle-même qu'avec une politique de puissance propre. C'est la politique de l'indépendance. Pour d'autres, il y a cette idée, Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, peut-être Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a cette idée que la France aujourd'hui n'a plus les moyens d'exister par elle-même, et si elle veut exister, elle doit se projeter dans un destin européen. L'Europe sera le vecteur qui permettra d'exister, et il y a chez ces gens-là aussi une forme de fascination pour les États-Unis. Les 30 dernières années, rapprochons-nous des temps présents. Les 30 dernières années après la guerre froide, qu'est-ce que c'est? C'est l'empire américain qui se déploie avec la logique néoconservatrice, l'idée d'un monde unipolaire, qu'on va imposer à tous les mêmes règles, avec des guerres, justement les guerres néoconservatrices, en Irak, en Libye. Résultat des courses, c'était un désastre quand même ces 30 dernières années. Et la France, de ce point de vue, a un orgueil. Il se rappelle 2003, le discours de Dominique de Villepin en disant qu'il a porté une forme de la sagesse de la vieille Europe devant les délires impériaux humanitaires à prétention démocratique des Américains. Autre point, et ça me semble assez important, c'est finalement le rapport à l'Occident. Les Américains, aujourd'hui, se sont dissociés de l'Europe, quoi qu'on en dise. Cette rencontre, j'y reviendrai, mais elle est quasi folklorique. Donc les Américains tendent la main, se rappellent de vieux souvenirs. Mais oui, nous aimons bien cette vieille relation lointaine qu'est l'Europe. Mais les Américains se projettent aujourd'hui vers l'Asie, le Pacifique, ou vers le monde. Et je pense que de leur côté, les Européens tardent à accepter le fait que les Américains ne les regardent plus justement comme la figure fondatrice, la sagesse des anciens, mais à la manière d'un pays où l'histoire ne passe plus, la part du monde qui est déclassée pour le siècle à venir. Alors quand on a ça en toile de fond, on se demande ce que veulent dire aujourd'hui les rappels nostalgiques de l'amitié France-Amérique.
Oui, qu'on a bien entendu cet après-midi. Justement, allons plus loin avec cette visite. Quel sens doit-on lui prêter?
Au temps présent. Relations abîmées. On en a parlé l'an passé sur ce plateau, la crise des sous-marins. Il faut seulement garder ça à l'esprit. C'est une trahison à grande échelle, en direct. Et un an plus tard, on fait soit comme si ce n'était pas grave.
On avait rappelé notre ambassadeur.
Comme si ce n'était pas arrivé. Donc, les trahisons sont vite oubliées. Une relation qui s'est renouée néanmoins au moment de la question de l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Donc là, on se demandait, l'OTAN, est-ce que ça peut encore dire quelque chose? Macron, il disait l'OTAN en situation de mort cérébrale. Aujourd'hui, rassemblement autour de l'OTAN, mais ce qu'on constate, c'est rassemblement autour de l'OTAN moins comme puissance de rassemblement des Occidentaux, mais comme une réaffirmation du primat américain à peu de frais, à peu de coûts, sur l'Europe dans une guerre où, si tous s'entendent pour condamner l'agression russe sur l'Ukraine, tous n'ont pas les mêmes intérêts à court, moyen et long terme dans cette guerre. Donc ça devient compliqué. Emmanuel Macron est accueilli à la manière justement de cette vieille amitié, mais il est aussi accueilli, et ça, ça lui fait plaisir, je n'en doute pas, à la manière du porte-parole de l'Europe. Porte-parole d'une Europe qui, par ailleurs, ne parvient pas à se constituer et ne parvient à parler que sous le signe de ses divisions insurmontables. Concrètement, au cœur de cette rencontre, il y a le fait que les Américains sont engagés par Joe Biden, donc une grande politique d'atténuation pour lutter contre l'inflation, sous le signe de la transition énergétique, à partir d'un protectionnisme économique nouveau qui va être centré sur l'investissement massif dans la voiture électrique et la transition pour les transports. Alors, un protectionniste qui va pousser aussi aux délocalisations possibles des entreprises d'un côté de l'Atlantique vers l'autre. Hein. Autrefois, les délocalisations, c'est soit le tiers-monde ou l'Europe de l'Est, et bien maintenant, vers les États-Unis. Ça devient compliqué. Réponse d'Emmanuel Macron, qui est assez senti. Il dit que c'est un protectionnisme agressif et qui va tuer la classe moyenne européenne. Il redoute une délocalisation, je l'ai dit. Et là, la réponse de certains, c'est oui, mais l'Europe pourrait elle-même faire son Buy European Act, hein, l'équivalent. Mais on se rappelle encore une chose, c'est que l'Europe n'existe pas comme les États-Unis existent. Les États-Unis, c'est une nation-empire. L'Europe, c'est une collection de nations qui, lorsqu'elles veulent se fédérer autour d'un empire, c'est généralement de manière autoritaire et ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, cet appel souvent lancé à une forme d'unité européenne dans un protectionnisme nouveau, c'est un appel, c'est une chanson, c'est une mélodie, c'est une poésie, mais ce n'est pas une politique. Résultat des courses, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron tendre la main et on voit les Américains un peu méchamment dire « Oui, on entend ce que vous dites, mais dans ce fait, ce qu'on fait, c'est dans votre intérêt. Dites-nous merci. »
La relation entre la France et les États-Unis peut-elle être réparée à long terme?
Alors, il y a une formule aujourd'hui très forte d'Emmanuel Macron qui s'inquiétait d'une fracture de l'Occident. Une fracture de l'Occident. Mais le problème, c'est qu'il faut dire au président de la République que cette fracture, elle n'est pas à venir. Elle n'est même pas au temps présent. Elle est déjà advenue et on finit par la reconnaître aujourd'hui. Il y a un terme qui vient des années 90 et surtout 2000. On parlait de la faille atlantique. La faille atlantique, c'est central. Ça voulait dire que l'Europe ne se voyait plus de la même manière que les Américains se voient eux-mêmes. Donc, différentes conceptions de l'être humain. On voyait l'Europe comme un paradis indolent. Les Américains prétendent avoir le sens du tragique. C'est leur manière de dire les choses. On se demande même qu'est-ce que l'Occident aujourd'hui? Est-ce que c'est justement une société qui s'égrène en droits sans cesse, des droits pour toutes les nouvelles minorités qui s'inventent, une société qui n'a plus de peuple, qui n'a plus de nation, qui n'est qu'une voie de passage migratoire? Les deux parts de l'Occident, finalement, ne s'entendent plus sur ce qu'est le monde occidental. Donc cette fracture, elle a déjà eu lieu. Et la question qu'on peut se poser simplement, c'est est-ce que l'Europe a une capacité aujourd'hui d'agir en son propre nom? Mais pour cela, elle devrait être capable de se nommer. Elle n'y parvient pas parce qu'elle ne le peut pas. Revenons à la France, tout simplement. Est-ce que la France a la capacité d'avoir sa propre politique, sa propre ambition, sa propre vision du monde? La capacité, certainement, mais ça fait 30 ans que ces élites ont cessé d'imaginer cette possibilité. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette analyse brillante. Que Dieu bénisse nos deux nations, hein, et que Dieu bénisse nos troupes. Ce sont les derniers mots de Joe Biden à Emmanuel Macron lors de la conférence de presse cet après-midi. Revenons en France. Il n'y aura donc des coupures d'électricité cet hiver. Le gouvernement travaille sur un plan de crise visant à priver des foyers d'électricité aux heures de pointe durant 2 heures. C'est un revirement, mon cher Geoffroy Lejeune, par rapport à ce qui était annoncé jusqu'ici. Personne ne parle de ce revirement.
Alors en vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de spécialistes, de gens qui s'improvisent spécialistes de l'énergie. Moi c'est pas mon cas et je suis pas capable de vous inventer une solution. En revanche, ce qui m'a intéressé en effet, c'est ce revirement. C'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs mois que RTE, qui est notre gestionnaire de transport d'électricité, explique qu'il y a un risque de tension, de pénurie, de crise. Et dans le même temps, le gouvernement répond que non. Alors je vous ai retrouvé deux déclarations. Au mois de juin dernier, Emmanuel Macron dit il n'y a aucun risque de coupure. Ça prête un peu à sourire quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques en août, donc un peu après, Elisabeth Borne dit les coupures ne concerneront pas les ménages, donc on était tranquille. Si on les écoutait, on était tranquille. Et puis, ça n'arrive pas, évidemment, ils sont démentis par les faits. Alors, j'interroge ce revirement, est-ce que c'est réellement un revirement? Je ne crois pas, je pense que c'est un mensonge. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du mensonge en politique, de la portée du mensonge en politique, en précisant tout d'abord deux choses. Je ne parlerai pas ici de l'erreur, parce que l'erreur est humaine, tout le monde en commet, et que l'essentiel d'ailleurs est de reconnaître l'erreur. Et on peut même dire d'ailleurs que le début du mensonge, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs, mais c'est un autre sujet. Et je ne parlerai pas non plus d'une autre forme de mensonge en politique, mais qui est essentielle à mes yeux et que je serais même capable de défendre, c'est le mensonge d'État, qui parfois, vous savez, pour un bien plus grand, il faut assumer le mensonge. Je prends juste un exemple. Imaginons aujourd'hui, je n'en sais rien, mais imaginons aujourd'hui que la France sache qui a saboté le gazoduc Nord Stream et qu'elles ne le disent pas pour éviter une escalade et une troisième guerre mondiale, ce serait une très bonne chose et je serais capable de le défendre. Donc je ne parle pas de ça, je parle juste du mensonge en politique.
Alors justement, qu'est-ce qu'un mensonge et qu'est-ce qu'un mensonge en politique, selon vous ?
Alors, je me suis risqué à une petite définition extrêmement sommaire, mais qui va me permettre d'avancer un peu. Un mensonge, en politique comme ailleurs d'ailleurs, c'est mentir, consiste à ne pas dire la vérité alors qu'on la connaît. Et ensuite, j'ai tenté une subdivision des mensonges en politique que j'ai constaté ces dernières années. Alors, petit point méthodologique, pardon, les catégories vont un peu se recouper et vous allez retrouver souvent dans les exemples que je donne trois personnages qui sont le président de la République Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le porte-parole du gouvernement ex-ministre de la Santé Olivier Véran. Ils y sont plus par fonction que pour leur talent personnel. Disons que dans le concert du mensonge, le gouvernement est une forme d'orchestre dont eux seraient un peu les solistes. Donc je commence ma subdivision. Il y a d'abord la négation pure et dure. Donc c'est ce qu'on a vu avec la pénurie. On nous avait fait le coup il y a très peu de temps. Il n'y aura pas non plus de pénurie d'essence. Donc ça n'arrivera pas. Et puis au moment où ça arrive, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu d'autres exemples de négation pure et dure. Je me souviens au moment du Covid, vous savez, cette phrase célèbre d'Edouard Philippe, au moment où on est privé de masque, on n'en a pas, le monde entier commence à se masquer. Et lui, il dit, le masque en population générale, ça veut dire dans la rue, ne sert à rien. Encore un mensonge qui a été assez vite balayé. Un mensonge dont Mathieu nous parle d'ailleurs très souvent. On parle quand je ne suis pas là, mais j'écoute. C'est celui, vous savez, qui consiste à psychiatriser ou à diaboliser l'adversaire. Donc ça, c'est la vieille méthode un peu totalitaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas cru ce que vous avez vu. Vous êtes complètement fou. Vous êtes bon pour l'asile, la camisole de force. Il faut qu'on vous enferme. Et alors là, pour le coup, voir vous êtes d'extrême droite. Ça peut arriver qu'on soit accusé d'être d'extrême droite. Donc là, il y a quelques exemples récents, notamment, vous souvenez-vous, le Stade de France. Ce ne sont pas des racailles, ce sont des supporters anglais. Il n'y a pas eu de débordement, de problème d'insécurité. Il y a eu un problème, en revanche, par contre, de falsification de billets. Ce n'est pas un problème d'insécurité en Seine-Saint-Denis, pas du tout. C'est un problème de grève de RER qui pour amener vers le Stade de France. Il y a aussi un autre exemple qui consiste à psychiatriser un peu celui qui pense mal. C'est « il n'y a pas de grand remplacement ». Alors là, j'ai retrouvé une citation amusante de Mark Twain, figurez-vous, qui dit « il y a trois manières de mentir, il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques ». Et quand on veut démonter, Mathieu parlait de ça hier, quand on veut démontrer que le grand remplacement n'existe pas ou que l'immigration massive n'existe pas, on a toujours beaucoup de chiffres. C'est notamment le métier d'un certain Hervé Lebras qui passe sa vie à expliquer que le grand remplacement n'existe pas à coup de chiffres. Je continue un peu. Une autre manière de mentir assez récente, c'est la novlangue. Donc là, je vous donne un exemple. C'était sur ce plateau d'ailleurs chez Pascal Praud. L'imam Iqiyoussen ne s'est pas enfui au nez et à la barbe des policiers qui étaient censés le récupérer pour ensuite pouvoir l'expulser. C'est l'islam radical qui est en fuite et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Gérald Darmanin qui dit ça ici même. Donc on est sommé d'applaudir presque cette bonne nouvelle. Autre exemple, c'était encore sur ce plateau dans la matinale de Laurence Ferrari, juste après l'Ocean Viking, Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement dit « L'Ocean Viking, ce n'est pas un fiasco, c'est l'état de droit ». Exceptionnel. Moi, cette formule m'a hanté parce que on pourrait la retourner dans tous les sens. En fait, les mêmes mots mis dans un autre sens, ça fonctionne. C'est-à-dire, l'état de droit est un fiasco. L'état de droit nous conduit au fiasco, ça marche. Mais c'est pas un fiasco, c'est l'état de droit. Voilà, il a inventé ça, c'est exceptionnel. La novlangue, c'est formidable. Ça permet de faire tout passer. Par exemple, on n'a pas saboté le nucléaire français. Maintenant, on a des centrales en maintenance. Non, mais je vous jure, c'est vraiment les mots qu'on entend dans la bouche du gouvernement. Là, il y a celle d'aujourd'hui qui est exceptionnelle. On n'a pas de panne, de coupure d'électricité. C'est un délestage tournant. Oui, c'est formidable. Les gens n'ont pas froid. Ça, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Les gens n'ont pas froid. Ils sont en situation de sobriété énergétique subie. Ouais. Et non, mais on a tendance à les oublier, mais elles sont formidables. Et puis il y a la dernière que j'aime beaucoup, c'est Gérald Darmanin qui dit qu'un avion est parti vers le Mali avec plusieurs migrants de l'Ocean Viking à son bord expulsés. Ils étaient deux, évidemment, mais seuls les esprits chagrins l'auront remarqué. Autre manière de mentir, et ça c'est quelque chose aussi qui me frappe beaucoup dans la situation en ce moment, c'est de miser sur l'amnésie des gens. Emmanuel Macron promet en 2019 d'exécuter 100% des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avant la fin de son quinquennat. Promesse renouvelée 2 ans plus tard par son ministre de l'Intérieur qui dit « on va y arriver, non seulement c'est un objectif, mais on va le faire ». À la fin du quinquennat, ils sont à 6% et personne n'en parle. On a dû se battre pour essayer de faire exister ce sujet dans le débat public. Et cette promesse non tenue, ce mensonge en réalité, parce qu'au moment où ils le disent, ils savent qu'ils ne pourront pas le faire, on ne leur en tient jamais rigueur. Exemple assez récent aussi, le gouvernement se bat, il est vraiment au combat pour réintroduire les mathématiques au lycée, qu'il avait précédemment supprimé sous le quinquennat précédent, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'en était occupé. Actuellement à l'Assemblée, le gouvernement montre les muscles sur les squatteurs, donc il va y avoir une loi sur le squat. La même loi a été proposée sous la précédente mandature par un député, Julien Aubert, qui venait de chez des Républicains, et le même gouvernement lui avait dit non, c'est hors de question, c'est horrible votre loi, ce que vous proposez. Mais on oublie. Et donc on mise là-dessus pour surtout ne jamais être confronté à ses propres contradictions. Ensuite, il y a les arguments d'autorité. Ça va vous rappeler quelque chose. Si par hasard, vous avez tendance à trouver qu'il n'est pas normal que, en France, en 2022, comme on dit, on retrouve le corps d'une fillette découpée dans une malle, et que vous avez l'idée de soit essayer d'analyser ce qui s'est passé, soit de vous insurger parce que vous êtes un peu en colère, attention, c'est de la récupération. Argument d'autorité, on a vécu 10 jours de terreur sur ce sujet, on ne pouvait rien dire d'autre que exprimer sa tristesse parce qu'on était accusé de récupération. Ceux qui ont essayé de contourner cette accusation se sont mordus les doigts, y compris surtout politiquement. Il y a d'autres arguments d'autorité. Vous savez, par exemple, si vous ne voulez pas changer votre voiture d'ici 2024, votre diesel, et ça concerne 15 millions de gens, donc ce n'est pas du tout une petite histoire. Si vous n'avez pas envie de changer de voiture pour passer à l'hybride, à l'électrique ou à autre chose, vous ne voulez pas sauver la planète. Donc vous voulez la mort de la planète. Donc vous voulez la montée des eaux au Pakistan. Donc vous voulez le déluge. Vous êtes une véritable ordure. C'est comme ça qu'on vous explique les choses. Et puis il y avait aussi les arguments pendant la crise Covid. Vous savez, il faut se faire vacciner par altruisme pour sauver des vies, pour sauver des gens. Et puis au moment où on découvre que finalement le vaccin n'empêche pas la transmission, il faut continuer à sauver de voilà. Donc ça, c'est les arguments d'autorité. Il m'en reste deux, j'ai bientôt fini. Il y a le management par la peur.
Prenez le temps, ça m'intéresse. Nous sommes suspendus à vos lèvres.
Je sais que je parle un peu vite. Et voilà.
C'est clair en tout cas.
Il y a le management par la peur. là, ça c'est aussi quelque chose d'assez récent. Nos gouvernants n'ayant plus aucune prise sur les opinions, en tout cas voyant que les opinions leur échappent, ils ne sont jamais aussi à l'aise, aussi heureux qu'au moment où ils peuvent invoquer une raison supérieure comme un grand, grand danger. Le Covid en a été un, par exemple, pendant un an et demi. On nous a imposé des restrictions de liberté qu'on n'aurait jamais imaginées et ça a été justifié par la menace de la mort. L'Ukraine était également un sujet de management par la peur, c'est-à-dire que la crainte du conflit à nos portes, aux portes de l'Europe, etc., a justifié que on passe une campagne présidentielle entière sans s'occuper des préoccupations exprimées par les Français, notamment dans les enquêtes d'opinion. On a parlé quasiment que de ça. Et la dernière, c'est la déresponsabilisation, le mensonge par la déresponsabilisation. C'est pas nous, c'est pas notre faute. C'est alors il y a plusieurs façons de se dédouaner. C'est ceux qui étaient là avant nous. Par exemple, sur le cas du nucléaire français, on a le sentiment que François Hollande porte seul toute la responsabilité. Pardon de rappeler que le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017, il a nommé Nicolas Hulot ministre de l'Environnement. Il voulait fermer 17 réacteurs nucléaires. Cette politique a été continuée. Et il y a aussi la manière de se dédouaner en permanence. Vous savez, par exemple, sur le conseil scientifique, si jamais il avait l'idée de légiférer sur la PMA, la GPA, l'euthanasie, ou même d'ailleurs pendant la crise Covid, merci, c'était le conseil scientifique qui devait décider.
Mais pas le gouvernement. Pardon. J'ai encore une question parce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est uniquement l'actuel gouvernement qui ment ? On en parle après la pause. Après la minute info d'Adrien Spiteri, ma dernière question, vous avez été exceptionnelle. À tout de suite.
Des milliers de médecins et biologistes libéraux en grève. Ils ferment leurs cabinets et laboratoires au moins jusqu'à demain. Ce mouvement a été initié par le collectif Médecins pour Demain. Ils réclament notamment des hausses de tarifs pour les consultations. Emmanuel Macron et Joe Biden saluent les manifestations en Iran. Les deux chefs d'État ont échangé ce jeudi à Washington. Depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, un mouvement de contestation a commencé dans plusieurs villes iraniennes. Des manifestations fortement réprimées par le régime. Et puis c'est une première mondiale. La Française Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. Ce sera ce soir à 20h pour la rencontre Allemagne-Costa Rica. Stéphanie Frappard fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de ce mondial au Qatar.
Alors on a vu que Geoffroy Lejeune décrivait le mensonge en politique par omission, par psychiatrisation, par amnésie, par négation. Et la question que je vous posais, c'est est-ce qu'on peut dire honnêtement que ce rapport au mensonge ne concerne que l'actuel gouvernement ?
Malheureusement, non. En fait, on vit une accélération sous ce gouvernement qui est composé de virtuoses essentiellement, mais les racines sont très profondes. Et en fait, on vit une époque très particulière par rapport à la parole publique. Vous savez, le politique a abdiqué. Alors, en fait, ils ont de moins en moins de pouvoir et surtout, ils ont un peu abdiqué leur capacité à, comme disait Mitterrand, à changer la vie. C'est le propre de la politique, normalement, chercher le bien commun en améliorant la condition de ses citoyens. Ils n'ont plus la prise sur cette réalité-là. Guillaume Bigot vous expliquerait que c'est à cause de l'Union européenne. Il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait analyser. C'est un autre débat. Et donc, ils se sont concentrés sur le fait d'être vertueux, transparent. On a créé, par exemple, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On a créé le Parquet national financier. Aujourd'hui, on fait démissionner en un claquement de doigts une ministre. C'est arrivé la semaine dernière dans l'indifférence générale parce qu'elle avait mal estimé son patrimoine, qu'elle avait un différend avec cette fameuse Haute Autorité. On flingue des candidats à la présidentielle sans aucun problème pour des histoires de costumes, etc. Ils offrent leur vertu et leur transparence à la population. Mais en revanche, il n'y a jamais aucune demande qui est, en tout cas, rien qui est offert à la population sur la notion de vérité et de responsabilité. Donc je vous donne juste un exemple. On patauge en plein mensonge et après le Covid, aucune démission. Après le Stade de France, aucune démission. Après l'Ocean Viking, aucune démission. Après l'affaire Lola, aucune démission. On passe notre vie à se plaindre de vivre dans un monde de post-vérité où on va traquer la fake news, mais la notion de vérité est absente du débat public et on n'interroge jamais les politiques sur cette notion-là. Moi, je vais juste terminer en paraphrasant, vous savez, Baudelaire qui parlait du diable. En réalité, la plus belle des ruses du mensonge est de faire croire qu'il n'existe pas.
Merci beaucoup pour cette analyse, mon cher Geoffroy. Alors, on va continuer peut-être un peu pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cette loi sur l'immigration. Charlotte, on ne comprend pas. Et on va essayer de comprendre avec vous, parce que vous savez décortiquer, j'aime bien ce mot, avec vous. Le projet de loi immigration doit être déposé début 2023 par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur achève en ce moment ses consultations avec les groupes parlementaires, mais la majorité se dit déjà prête à assumer le rétablissement de la double peine, c'est-à-dire l'expulsion des étrangers condamnés. Mais n'est-elle pas déjà prévue, puisque Gérald Darmanin lui-même a demandé au préfet d'expulser les délinquants étrangers ?
Mais oui, alors c'est déjà possible. Est-ce que c'est systématique ou obligatoire ou décidé en justice? Non, pas nécessairement, parce que vous savez que les OQTF, dont on parle extrêmement régulièrement, c'est une décision administrative et non pas judiciaire. Donc on comprend dans ce que dit Gérald Darmanin que lui, son idée, potentiellement, c'est de pouvoir le rendre plus systématique dans un tribunal. C'est-à-dire le tribunal vous condamne à une peine et en plus au fait d'être expulsé derrière. En fait, la double peine, c'est à peu près tous les ans, voire tous les six mois que ce débat revient dans l'espace public. Moi, j'avoue confier mon incrédulité devant ce débat qui passionne absolument. On parle quand même d'une double peine qui consiste très exactement à dire quand vous êtes étranger en France et que vous contrevenez à la loi française, on va vous demander de rentrer chez vous. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça déchaîne autant les passions. Passons. En effet, Nicolas Sarkozy, en fait, c'est un dispositif qui date de l'après-guerre. Et Nicolas Sarkozy, on dit souvent, avait supprimé la double peine. On parle tout le temps de rétablir la double peine. Nicolas Sarkozy, à l'époque, c'était en 2003, avait allégé la double peine. C'est-à-dire qu'il avait interdit d'expulser dans certaines situations. On va reprendre l'exemple de l'imam Iqwisen, souvenez-vous. C'était interdit, c'est extrêmement difficile d'expulser un étranger qui est arrivé avant ses 13 ans en France, voire impossible. Et c'est impossible aussi, par exemple, s'il est responsable de l'éducation d'un enfant. La fameuse vie familiale qui avait permis de casser le dossier de l'imam. Mais je prends cet exemple à dessein parce que vous voyez que quand on arrive au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, le droit devient une histoire d'interprétation. Donc il y a un tribunal qui nous dit oui, l'autre qui nous dit non, puis en fait oui, puis en fait non. Le tout avec les mêmes textes. Donc a priori, on peut quand même un peu faire ce qu'on veut. Et surtout, le code pénal aujourd'hui français comporte un article que je vais vous donner tel quel. La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Donc c'est quelque chose qui est déjà prévu en effet par le code pénal. Un étranger peut être expulsé aujourd'hui si le juge le décide en plus de sa peine. Alors il peut aussi l'être selon une procédure administrative. On peut prononcer aussi l'expulsion d'un étranger sur procédure administrative. En revanche, ça n'est ni automatique et c'est limité par certaines conditions, surtout dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez 1000 possibilités de ne pas prononcer l'expulsion, eh bien dans beaucoup de cas, elle n'est pas prononcée.
Casse-tête et jus de crâne, on a l'impression un peu pour rien. Alors les Français se disent très largement favorables à cette mesure. La classe politique semble en partie d'accord. Comment expliquer justement de telles tergiversations sur le sujet, Charlotte?
Eh bien, je crois qu'on a un exemple magnifique avec ce sujet précis, à la fois du jeu politicien qui est parfois vraiment délétère pour ce pays, et par ailleurs, le parti pris médiatique complètement hallucinant sur certains sujets, qui évidemment a pour première conséquence d'inhiber très largement le politique lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je reprends l'exemple. En 2003, Nicolas Sarkozy, quand il allège le dispositif de double peine, il le fait à l'époque pour, selon l'expression consacrée, trianguler à gauche. C'est le moment où il ouvre son gouvernement à gauche, où il veut donner des gages à gauche. Et donc il se dit, tiens, on va le faire avec ça, comme si c'était quelque chose de complètement anecdotique et comme si l'avis des Français comptait assez peu, finalement, au moment où il faut donner un gage, en l'occurrence à la gauche. En 2022, Emmanuel Macron reparle de rétablir la double peine, c'est-à-dire de la rendre plus efficace, on va dire. Et là, c'est la gauche cette fois-ci qui dit bah, « c'est facile, il triangule à droite, c'est bien la preuve qu'il va trianguler à droite ». Quand les Républicains critiquent le projet de loi à venir sur l'immigration en disant que le dispositif est trop peu ambitieux, Gérald Darmanin, qui est interrogé par certains journalistes, dit « ce sont des critiques circonstancielles liées au congrès des Républicains qui a cours en ce moment, ça finira par disparaître. En janvier, le congrès sera fini, on pourra en reparler ». Donc Gérald Darmanin, en confiant ça, nous explique à nous lecteurs et par ailleurs français qu'ils ont tous dans la tête qu'il y a des moments où on peut parler de ça, il y a d'autres moments où on peut s'arranger. En gros, pendant les campagnes, on est extrêmement ferme parce que c'est ce que veulent les gens. Après, on peut discuter entre gens sérieux sans l'avis des Français. C'est exactement ça qu'il faut lire dans cette déclaration, malheureusement. On apprend par ailleurs que la droite, justement, présente un texte justement visant à rétablir la double peine en ce moment à l'Assemblée. Et là, pareil, les en off, comme on dit, les macronistes expliquent qu'ils vont pas voter ce texte-là parce qu'ils préfèrent assurer la victoire du texte macroniste sur le même sujet. Vous savez, c'est les jeux, on pourrait le faire avec absolument tous les partis, ce sont les jeux de qui gagnera, sur quel texte, etc. Ce qu'on comprend, c'est que le pays a moins d'importance, finalement. Il y a la conviction est moins forte que ce que peut en tirer chaque parti au moment où il le propose. La deuxième chose sur le petit jeu médiatique, alors là, j'ai résumé extrêmement simplement parce que ça m'a sauté aux yeux. Les médias adorent faire de ce sujet un totem. C'est un totem, c'est-à-dire que c'est l'autre nom du « quand on ne s'excite pas sur le grand remplacement, sur l'immigration massive, sur je ne sais pas quoi, on sort la double peine, ça excite tout le monde ». Et là, alors sur une radio de service public, sur le site d'une radio de service public, j'ai trouvé deux sujets sur la double peine. Le premier est très récent et il nous explique que la volonté de rétablir la double peine est bien la preuve que la Macronie penche désormais totalement à droite. Ils veulent rétablir la double peine, c'est-à-dire ils veulent expulser des étrangers après les avoir condamnés. Donc il nous explique donc pourquoi c'est évident que la Macronie penche à la droite de la droite, je les cite. Et on trouve sur le même site un autre article, un peu plus ancien celui-là, qui date du débat entre les Républicains, vous savez, à la primaire, avant la présidentielle. Et tout le monde parlait de renforcer la double peine, etc. Et alors là, le même site hein, qualifie carrément l'idée de rétablir la double peine d'intox. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais été retirée. Donc, on comprend que ça n'est pas la double peine leur sujet, mais bien ce qu'elle permet de dire des uns ou des autres. Dans un cas, les LR ne comprennent absolument rien à ce que c'est, puisque, en fait, c'était dans leur famille politique, ça n'a pas été supprimé, ça a juste... Et en fait, ça existe déjà, et là, ça ne les dérange pas plus que ça. Et le jour où il faut expliquer, à la veille d'un vote de loi sur l'immigration, que la Macronie penche à l'extrême droite, ben là, il n'y a plus de... La double peine existe déjà. Non, c'est la rétablir, c'est vraiment pencher à droite. Donc c'était assez révélateur, me semble-t-il, du fait que l'exactitude, on va dire, des informations données compte beaucoup moins que ce qu'elles permettent de dire des uns ou des autres dans la vie politique.
La double peine existe donc toujours, mais il faut la rétablir parce que ce qui a été supprimé ne l'a pas vraiment été, donc on n'y comprend plus rien. Que faire concrètement, Charlotte, pour que les étrangers dangereux soient réellement expulsés dans leur pays ? Ce qui arrive, cela dit en passant, en général, dans tous les autres pays.
Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais au début mon étonnement, on va dire, devant ce psychodrame permanent. Bon, en France, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on se dit il faut faire une loi. Or, quand on veut changer un système ou le rendre plus efficace, en l'occurrence, parce qu'on a vu que c'est déjà dans la loi, il convient précédemment, d'évaluer le dispositif que l'on a, les outils que l'on a, et de comprendre pourquoi ça fonctionne mal ou pourquoi ça fonctionne pas du tout. Or, on assiste aujourd'hui à des dysfonctionnements réels qui sont notamment dus à deux procédures en cours sur le droit des étrangers, qui sont administratifs et judiciaires, qui se renvoient la balle en permanence et qui n'aboutissent jamais en raison notamment du nombre de recours et d'allées et venues entre les deux. Mais ça, en réalité, ce qu'il faudrait voir sur tous les sujets dont on parle en permanence, sur le lien notamment entre immigration et délinquance, mais même sur le lien de la gestion de l'immigration, c'est l'édifice du droit des étrangers qu'il faudrait mettre à plat sur une table et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que, pour vous donner un exemple simple, on a vu récemment que c'est un nombre de places en CRA, les laissez-passer consulaires, donc il y a la question diplomatique, le refus du test PCR. Ah, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez pour rétablir une double peine, renforcer une double peine, à la fin, ils ne montent pas dans l'avion parce qu'ils refusent de faire un test PCR. La loi, il changera quoi ? Donc, c'est évidemment, il faut tout mettre à plat et dire ça n'est plus possible, ça n'est plus possible. Revoir le dispositif, c'est par exemple réaliser, ce que j'ai fait cet après-midi, réaliser que nous avons déjà tous les outils. Il y en a trois en particulier. Le premier, il s'appelle la libération-expulsion. C'est-à-dire qu'à mi-peine, aujourd'hui en France, un condamné étranger peut être expulsé dans son pays d'origine. On lui rend la moitié de sa peine en échange du retour immédiat dans son pays d'origine. La question que je pose, cette mesure est-elle seulement utilisée ? Le sait-on ? Qu'en est-il aujourd'hui dans le pays ? Je ne sais pas. Il existe aussi le transfèrement, c'est-à-dire la possibilité de transférer le détenu dans son pays d'origine pour qu'il exécute la totalité de la peine. C'est prévu dans nos textes aujourd'hui. Là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune instruction du garde des Sceaux dans sa politique pénale sur ce point-là, puisqu'apparemment, c'est devenu une priorité pour ce gouvernement. Cette instruction n'existe pas. Troisième chose, il existe des interdictions judiciaires du territoire. Ça existe déjà. L'OQTF est donc une mesure administrative, mais le juge peut prononcer cette interdiction. Là encore une fois, on se demande pourquoi est-ce que si c'est une priorité pour ce gouvernement, ça n'est pas en tête de liste dans les priorités de la politique pénale du garde des Sceaux. Voilà, c'est une question qui reste ouverte, mais ce qui est clair, c'est que les outils, on les a déjà.
Donc la concertation, discussion, alors qu'il faudrait tout simplement appliquer des textes qui existent déjà.
Mmh. Oui, la peine en fait d'expulsion pourrait devenir une peine complémentaire qui est prononcée de droit par le juge, plus largement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut être prononcée par les juges pour terrorisme, stup, criminalité organisée. Mais si le gouvernement nous explique que la criminalité plus ordinaire, et je mets vraiment des gros guillemets parce que la criminalité plus ordinaire, comme on dit, c'est-à-dire la délinquance du quotidien, elle est dramatique pour un nombre de gens hallucinant. Mais si ça devient une priorité, ce qui est une bonne chose, alors il faut élargir la possibilité de ces expulsions. Mais il faut aller plus loin. Il faut que la décision du juge soit définitive, comme c'est le cas pour énormément d'autres peines. Parce que aujourd'hui, je vais le dire simplement, après avoir purgé sa peine, le délinquant qui est condamné à une interdiction du territoire, retombe entre les mains du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire sur le terrain administratif, et revient dans la procédure du droit des étrangers avec les 1000 recours dont on parle en permanence. Donc c'est-à-dire que le juge a prononcé l'interdiction du territoire, mais quand même on va le réexaminer, il va pouvoir faire des recours, savoir si oui ou non, en fait, on va réellement l'expulser. Résultat, c'est inefficace. Donc on peut même élargir cette expulsion, donner plus de pouvoir au juge. Si on ne la rend pas immédiatement plus efficace dans tous les cas, ça ne changera absolument rien.
Merci pour cette analyse, Charlotte. Marc, dans un instant, on parlera donc de la femme, l'octogénaire qui a été agressée, et puis surtout de ce sentiment d'excuse laconique de la part des jeunes agresseurs, de ce manque de compassion de ces trois jeunes. On va essayer d'en parler pour essayer de comprendre un peu dans quelle société aujourd'hui nous sommes, dans quelle société de la non-compassion, du manque de compassion on est aujourd'hui. Alors que le 1er décembre 1789, Marc Menant, le docteur et député Joseph Guillotin, suggère à l'Assemblée constituante de traiter l'un délinquant de façon humanitaire, humaniste, digne. Marc Menant, vous allez vous intéresser à Charles-Henri Sanson. C'est un bourreau d'une famille de bourreaux, de génération en génération. Et c'est intéressant parce que Joseph Guillotin, qui a créé la guillotine, c'est au bourreau qui va s'adresser pour savoir comment la créer.
Oui, alors, c'est vrai qu'au départ, il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Il est là, il dit, c'est impossible que l'on continue la barbarie telle qu'elle se manifeste depuis des siècles et des siècles. Alors déjà, si vous êtes un noble, la sentence ne s'exécutera pas de la même façon que si vous êtes un pauvre bougre, roturier, malfrat qui a volé simplement une pomme. Alors il y en a un, on lui tranche la tête avec une épée en mettant la tête sur le billot. L'autre, c'est la corde, on le pend. Et il y a également les crimes qui sont liés au délit, je dirais, de foi. Si vous blasphémez, si vous êtes considéré comme une sorcière. Et là, c'est carrément le bûcher. Je ne vous fais pas le détail, un jour, il faudra que je vous raconte exactement comment on dresse un bûcher. Et croyez-moi... Il ne faut pas le résumer simplement en quelques mots comme ça. Donc, il dit, tout ça, ce n'est plus possible. Il faut que, dans notre système, non seulement on puisse mourir en dignité, mais en plus, il n'est pas question que la famille soit, elle aussi, punie, car le crime est personnel. Or là, on est habitué à ce que la famille soit bannie et qu'on lui saisisse les biens. Voilà ce qu'il pose comme principe devant l'Assemblée. Après, bon, que faire ? Alors, il cherche, et il faut savoir qu'on avait déjà des améliorations qui s'étaient faites, en particulier en Italie, avec la Manaia, c'était à Gênes. Alors, on avait deux poteaux avec des coulisses, et dessus, on mettait la hache. Le type, il était à genoux, ça lui tombait sur la tête. On est déjà où il est dans l'esquisse de la guillotine.
Au moins, personne ne souffre.
Voilà. Enfin, et là, enfin, oui, parce que quand vous êtes à genoux, c'est ce que va dire immédiatement Sanson quand Guillotin vient le voir. Les échanges vont se multiplier plusieurs soirs de suite. Il lui dit, mais déjà, le problème, vous imaginez quand quelqu'un s'attend au supplice. Alors, il ne dit pas, ça sera le supplicié, il parle du patient. Il a peur, il tremble, ses jambes ne le portent plus. Et par conséquent, il n'est jamais bien placé et ça ne donnera rien. Alors il faudrait prévoir un élément qui lui tombe sur la tête et également qu'il soit couché avec les cordes pour le tenir, qu'il ne puisse plus bouger. Alors Guillotin propose ça à l'Assemblée, et là, on lui demande de se tourner vers le médecin du roi. Sur les entrefaites, notre Samson, le soir, vous savez, il est temps de Samson, c'est difficile son métier. Alors il joue au violon, il joue également du violoncelle, et de temps en temps, il a Schmidt, qui est un Allemand, qui est un de ses règleurs de clavecin. Et ensemble, ils se laissent aller à quelques notes pour oublier les vicissitudes de la vie, toutes ces atrocités, toutes ces tortures, tout ce sang qui coule. Et il lui dit, dites donc, mon cher Schmidt, vous qui avez le sens de la mécanique, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que l'exécuté, le patient, puisse disparaître dignement? Et là, il pose le violoncelle, notre Schmitt, et hop, il dessine la guillotine. Et c'est comme ça qu'on va suggérer cette guillotine à Antoine-Louis, le médecin du roi. Et celui-ci demande à Samson, à Guillotin, de se rendre à son bureau qui se trouve aux Tuileries. Une petite réunion qui s'organise et soudain apparaît un personnage. Ce personnage est tout en sombre. Samson a l'impression de le reconnaître et il ne porte plus de décoration. On est en 1792 à la fin de l'année. Il y a eu Varennes et c'est le roi. Il a bien compris que c'était le roi. Et le roi, mais dites-moi, comment ça se passe là? Il dit, mais c'est pas ça, ça va pas ça. Parce que la machine telle que vous la concevez, il y a le tranchoir qui ne pourra pas bien exécuter le coup. Il faudrait quelque chose en biais. C'est le roi Louis XVI qui invente la guillotine en biais.
Non.
Mais oui. Et c'est sur ce dessin, alors on fait les propositions à l'Assemblée. Oui, Louis XVI. Et on a l'Assemblée qui accepte le projet. On demande à Guidon, qui est un charpentier, de dresser l'appareil en question. Là, on prendra quelques moutons pour voir si ça marche. Oh. Quand il... Oui. Et puis quelques cadavres, trois cadavres. Oh. Et Louis XVI a précisé, quand vous ferez les essais, il faudra avoir une guillotine avec la lame telle que vous l'aviez conçue et l'autre avec la mienne. Et il y a deux cadavres qui sont coupés avec la biais et l'autre, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Moralité.
Donc le roi a raison et le premier exécuté est un garçon qui avait volé. Il s'appelle Jacques-Nicolas Pelletier. Il n'avait pas tué. Mais il est exécuté et il est le premier à perdre la tête de cette manière-là. Voilà l'histoire, mais donc Samson y a participé, mais plus invraisemblable, le roi lui-même. Et quelques semaines plus tard, il en fera malheureusement les frais, mais c'est vrai que c'est propre.
Oh. En tout cas, c'est intéressant de voir comment dans l'histoire, ce qui sert pour l'humanité, l'humanitaire, l'humanisme, finalement, se retourne contre l'homme.
Voilà, et Guillotin avait dit... Ce ne sera qu'une fugace fraîcheur qui fera tomber la tête, sans douleur.
Ce sera le thème de colloque aujourd'hui, en guillotine et humanisme.
Oui. Excellent.
Organisé par Marc Menon.
Alors voilà, 1er décembre 1789, on s'en souviendra. J'aimerais avoir votre avis sur cette actualité. Cet octogénaire à Cannes, poussé par deux jeunes, filmé par un troisième, elle est... tombé, fracassé au sol. Il lui vole le peu d'argent qu'elle a dans son sac. Deux des trois mineurs sont reconnus coupables. Ils étaient au tribunal hier. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est surtout qu'il n'y a eu que des excuses laconiques. C'est surtout qu'il y a un certain manque de compassion. Comment peut-on arriver à avoir deux jeunes qui, malgré leurs gestes, malgré l'indignation médiatique, malgré le fait qu'ils soient en rétention, ne manifestent pas la compassion, Geoffroy?
Pour moi, c'est une des phases de l'ensauvagement. C'est-à-dire que l'ensauvagement, c'est la violence et puis aussi c'est l'absence de compassion pour la victime et l'incapacité à réaliser ce qui s'est passé. Moi, j'ai été frappé à l'époque de cette agression par la phrase, vous savez, du maire de Cannes, David Lisnard. Il avait dit « Heureusement que c'est pas arrivé à ma mère parce que sinon je serais probablement plus là pour vous en parler », sous-entendant qu'il aurait pu aller se faire justice et se venger lui-même. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est la faiblesse, la lenteur de la réponse pénale que tout le monde peut attendre légitimement parce qu'on est ému de voir ça. Et en fait, si l'État ne comprend pas qu'il faut que la réponse pénale soit plus claire, il y aura beaucoup, beaucoup de David Lisnard beaucoup moins raisonnable que lui.
Charlotte et ensuite Mathieu.
Non, mais sur la question, il faut se souvenir d'une autre chose, c'est que ces jeunes, on va dire, ces jeunes hommes qui avaient 14 ans au moment des faits, enfin, qui ont toujours 14 ans du coup, la famille de l'un d'eux avait contacté la famille de la victime pour leur proposer de l'argent en échange du retrait de leur plainte. Donc imaginez le genre d'atmosphère dans lequel grandissent ces enfants. Donc pour tous ceux qui disent, pour les plus jeunes, l'enfermement n'est pas une solution, il faut les mettre avec des bracelets chez eux. Gardez en tête que ces familles-là existent aussi et que parfois ces jeunes-là grandissent dans des atmosphères extrêmement violentes dans lesquelles la violence n'est pas condamnée comme elle l'est partout ailleurs. Ensuite, la question sur les excuses dont vous parliez, justement, je vais encore citer Maurice Berger, le grand Maurice Berger, le fameux pédopsychiatre qui travaille en centre éducatif fermé depuis des années et qui connaît par cœur ça. Il dit il y a une chose à faire, notamment pour ceux qu'on veut sauver, puisque évidemment on peut avoir cette ambition-là. C'est une peine immédiate qui vient sanctionner immédiatement un acte dont certains ignorent même le caractère atroce. Il le dit lui-même, il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'empathie parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, qu'il n'y a jamais eu de limites qui ont été posées. Or là, qu'est-ce que vous découvrez ? Ces jeunes-là, ils sont passés en examen de culpabilité et dans 6 à 9 mois, ils connaîtront leur peine. Mais à cet âge-là, dans 6 à 9 mois, ils seront passés à autre chose. Donc c'est pourtant la toute nouvelle réforme de la justice pour les mineurs. Mais le problème, c'est que le délai entre l'acte et la peine est dramatique, surtout pour les jeunes qui ne réalisent pas l'horreur qu'ils commettent.
Vous vous souvenez probablement du film de Stanley Kubrick, dis-je, Orange Mécanique. Je dirais, sommeil dans le cœur ou l'âme de l'homme, la possibilité d'une petite bête sauvage dégueulasse. Fondamentalement, l'âme humaine, elle est souillée. Il y a une grandeur, il y a une noblesse, mais il y a aussi une part sombre, une part toxique. Or, manifestement, il existe aujourd'hui, en France et ailleurs, des petites créatures sauvages qui sont absolument étrangères à toute forme d'empathie, étrangères à toute forme de compassion, et qui sont sous le signe de la pure agressivité, de la pure consommation du besoin actuel, du désir de faire souffrir. Et on ne veut pas reconnaître ces choses-là, parce que ça heurte notre conception généreuse de l'être humain. Or, cela existe, et il arrive qu'il y ait des contextes familiaux, des contextes culturels, des contextes sociologiques, qui poussent justement cette part atroce à remonter à la surface et à se prendre pour norme, parce qu'il y a probablement une excitation malsaine et atroce à faire le mal, et nous y sommes là.
Il fut un temps où c'était bien le contraire, non ? Ou bien, je ne sais pas, où justement, si un jeune commettait un tel acte, la famille, les parents, les amis poussaient justement à réveiller cette compassion.
Mais déjà, là, il faudrait traduire les parents devant le tribunal, parce qu'ils cherchent un arrangement qui est immonde en soi. Là, ça, c'est la part où moi, je suis du côté d'une justice extrêmement dure. Après, quand on a des gamins, comme disait Charlotte, de 14 ans, est-ce qu'on considère qu'ils sont à tout jamais perdus en épousant le propos de Mathieu, en disant, bon, bah, alors, il faut les éliminer, carrément.
Non, mais
ce que je veux dire, le portrait tel que vous le dressiez peut suggérer qu'effectivement, c'est perdu. Moi, je dis, il faut une peine immédiate, mais ce n'est pas uniquement la peine de prison, c'est tenter de les faire entrer en humanité. Et là, il faudrait les traduire dans des EHPAD, qu'ils soient dans les lieux où il y a la souffrance du quotidien, qu'ils mettent les mains dans les excréments, qu'ils changent les couches, qu'ils soient confrontés à ce qu'est la douleur et que ça essaie de faire en eux une sorte d'éveil, qu'ils deviennent des êtres humains. Et si on n'a pas cette démarche-là, je pense qu'effectivement cette société est perdue, cette société devient indigne. Il nous faut trouver les rouages qui ne soient pas la punition pure et dure, parce que ça ne conduit à rien, mais de se donner les moyens d'une sorte d'espoir. Et cet espoir passe par les lieux les plus sordides où vous êtes condamné à vous lever très tôt le matin et à avoir les tâches les plus viles en voyant la douleur.
Bon, Marc, je vois bien chez vous l'homme de gauche et cette volonté, comme vous dites, de faire entrer en humanité. Mais vous pensez que ça pourrait marcher ?
Il faut au moins le tenter. Après, si ça n'est pas possible, vous êtes confronté à des gamins de 14 ans, qu'en fait-on ? Alors, est-ce qu'on réinstaure la peine de mort en estimant
non.
qu'à... Non. Ben, oui. Pourquoi pas ? On peut parler de tout. Ou alors, au bout de 20 ans, ça n'a rien changé en prison. Donc, il faut se dire que la part la plus exécrable, telle que Mathieu l'a décrite tout à l'heure, elle peut être rongée, grignoter au quotidien si on oblige les gens à des situations qui leur fassent comprendre qu'ils appartiennent à une espèce
et qu'ils doivent apprendre leur propre dignité, apprendre sa dignité, c'est savoir respecter l'autre.
Eh oui, il y a encore du travail. Alors, on s'en doutait, mon cher Mathieu, et cela vient d'arriver. Bruxelles suggère de geler les fonds européens destinés à la Hongrie. La raison, Budapest n'aurait pas mené assez loin les réformes en matière de lutte anticorruption, d'amélioration de l'état de droit. Question, est-ce qu'on peut voir dans cette séquence une manifestation de l'esprit démocratique de l'Union européenne face à un pays, la Hongrie, tenté par une dérive autoritaire ?
Ou peut-être l'inverse. Alors, je m'explique. L'argument, le prétexte, hein, parce qu'on est vraiment dans le cadre du prétexte. Est-ce que la Hongrie a des problèmes de corruption ? Manifestement. Mais la corruption est un prétexte pour parler de l'amélioration de l'état de droit. Là, ça devient plus compliqué, parce que l'état de droit, on constate que les définitions sont nombreuses. Et ce qu'on reproche à la Hongrie fondamentalement, qui est ensuite on peut aimer ou non, mais cherchons à comprendre la logique derrière ces condamnations sur le mode qui devront être confirmées par les États, soit dit en passant, par un vote à la majorité qualifiée. Derrière ces condamnations qui se présentent sous le signe de la lutte contre la corruption et pour l'état de droit de manière un peu désincarnée, c'est une condamnation de la politique et plus largement de l'orientation idéologique du gouvernement de Viktor Orban. Parce que la Hongrie, aujourd'hui, est traitée comme le vilain petit canard de l'Union européenne, comme l'État sombre, comme l'État qui irait dans la mauvaise direction, comme le mauvais Européen, celui qui profiterait de l'Europe sans participer à son esprit général. Qu'est-ce qu'on reproche au-delà, justement, des prétextes circonstanciels à la Hongrie ? Globalement, c'est pas dans le texte, mais c'est dans les discours. Sa conception de la nation, une conception de la nation qui est moins ouverte que d'autres, pour le dire d'un euphémisme, à l'immigration massive. Le conservatisme sociétal de Viktor Orban, qui ne s'enthousiasme pas des réformes sociétales que l'on prend pour le progrès absolu à l'Ouest. Une définition différente de l'état de droit, et même en ce moment, son rapport à la Russie. Donc ce que l'on condamne à travers ça, on cherche toutes les manières possibles pour faire le procès de la Hongrie, ce qui se passe en ce moment. Deux petites choses. Il y a la question de l'argent. Non, c'est beaucoup d'argent. Parce que c'est beaucoup d'argent pour la Hongrie. Est-ce qu'on pourrait dire que cette forme de chantage financier à l'endroit d'un État, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit démocratique? Et autre chose, est-ce que par ailleurs aujourd'hui l'Union européenne n'instrumentalise pas les fonds dont elle dispose pour en fait inféoder les États et les obliger à adopter des politiques qu'ils n'adopteraient pas s'ils suivaient simplement les règles de la démocratie? Est-ce que le chantage financier n'est pas un instrument aujourd'hui de la croisade démocratique européenne?
Autre question, juste après Mathieu Devez.
Mylène de Mongeau est morte à 87 ans. L'actrice reste associée à des comédies des années 1950 et 1960, comme la trilogie Fantomas. Elle a partagé l'affiche avec des grands noms du cinéma français, Yves Montand dans Les Sorcières de Salem, Henri Vidal dans Sois belle et tais-toi, ou encore Alain Delon dans Faible femme. Et plus récemment, elle s'est imposée comme une figure populaire du grand écran grâce à la comédie Camping. La France et les États-Unis doivent redevenir frères d'armes, c'est le message lancé par Emmanuel Macron à Joe Biden face notamment à la guerre en Ukraine. Le président français a été accueilli à la Maison-Blanche par son homologue américain. Les deux chefs d'État ont affiché la solidité de leur alliance malgré les frictions sur la politique industrielle américaine jugée agressive par Paris. Une grève d'une ampleur inédite chez les médecins et les biologistes libéraux. Ils sont des milliers à avoir fermé aujourd'hui leurs cabinets et laboratoires. Les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour s'élever contre une ponction de leurs bénéfices. Les médecins réclament le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. La grève sera reconduite demain.
Si j'ai bien compris, l'autoritarisme n'est pas nécessairement là où on le croit dans cette histoire.
N'y a-t-il pas une dérive autoritaire de l'Union européenne qui surplombe les États, limite leur capacité d'action, leur dit ce que vous avez le droit de faire et vous n'avez pas le droit de faire, qui leur explique que leur démocratie n'est légitime qu'à l'intérieur des traités fixés par les technocrates de l'Union européenne? On devrait s'intéresser à Ursula von der Leyen, si je peux me permettre, et plus largement au type de leaders politiques qui sont forgés par les institutions européennes. Une nomenclatura de technocrates sans vision historique, sans envergure, une collection de gens qui surplombent, ce sont des bureaucrates impériaux qui ne croient pas à la démocratie, qui ne croient pas aux nations. Donc ce pourrait-il qu'au-delà de la question de la Hongrie, l'Union européenne soit une dimension autoritaire, une forme de crypto-URSS sans les ambitions ni les moyens? Je vais trop loin, mais il y en a néanmoins quelque chose de tout cela dans ce récit.
Ah oui, vous avez été très loin. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, Charlotte. Merci, mon cher Geoffroy.
Merci Christine. Alors moi, comme vous nous avez guettés hier pour cette entrée dans l'avant, j'ai été désigné, puisque je suis le plus petit ici, pour vous remettre de notre part des pralinés qui sont ici.
Oh, voilà. Des pralinés.
Et oui, absolument.
Ouh, en voyage généré que je puisse manger. Oh, c'est gentil. Non, c'est tout normal. De suite, Pascal Pro, CNews, toutes les émissions. Oh, les pralinés, à lundi. Merci. Oh, c'est génial.